Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation en Libye avec la CPI. Les droits de douane imposés par les États-Unis à la Chine nuisent à l'économie des deux pays, avertit la CNUSED. Le fossé numérique s'accroît entre les femmes et les hommes, selon une nouvelle étude de l'UIT. Et en dossier, nous revenons sur l'expérience de la policière de l'ONU 2019 au sein des missions de paix de l'ONU. Le Conseil de sécurité a fait le point aujourd'hui sur la situation en Libye et la lutte contre l'impunité. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a demandé à tous les États de faire tout leur possible pour que les trois fugitifs libyens réclamés par la Cour soient arrêtés et lui soient livrés. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, fait partie des fugitifs réclamés par la CPI. Selon Fatou Bensouda, la Libye reste dans l'obligation de l'arrêter et de le livrer à la Cour. La CPI attend également que les mandats d'arrêt visant Al-Touami Mohamed Raled et Mustafa Bouseif al-Werfali soient exécutés. Ces trois fugitifs sont accusés de crimes internationaux graves, a insisté la procureure de la CPI. Selon les informations dont dispose son bureau, Saïf al-Islam Kadhafi se trouverait à Zintan, en Libye, Al-Touami Mohamed Raled serait au Caire, en Égypte, et Mustafa Bouseif al-Werfali aurait été promu par l'armée nationale libyenne, un groupe de milices dirigé par le général Khalifa Haftar. Fatou Bensouda a une nouvelle fois appelé le général Haftar à faciliter l'arrestation et la remise sans délai de M. al-Werfali à la CPI afin qu'il puisse répondre de ses crimes devant un tribunal et que la vérité soit établie. Elle a aussi appelé tous les États à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les trois accusés recherchés par la CPI soient remis à la Cour. Selon la procureure, les auteurs de crimes internationaux graves sont enhardis lorsqu'ils pensent qu'ils ne seront jamais traduits en justice. Le cycle de l'impunité fournit un terrain propice aux atrocités en Libye et pour rompre ce cycle, un effort international concerté est nécessaire pour garantir que les auteurs d'atrocités criminelles rendent des comptes.
Les droits de douane imposés par les États-Unis à la Chine nuisent à l'économie des deux pays. C'est ce qu'avertit une nouvelle étude de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour la CNUSED, l'étude sert d'avertissement global. Une guerre commerciale perdant-perdant ne nuit pas seulement aux principaux concurrents. Catherine Huisseau est attachée de presse à la CNUSED.
L'étude que nous avons faite à partir des statistiques commerciales récemment publiées, les vrais chiffres, permet de constater qu'en effet, cette guerre des tarifs que se livrent les États-Unis à la Chine a deux victimes. D'une part, les consommateurs américains, qui supportent le plus gros impact de ces droits de douane sur les produits importés de Chine. Et puis, les entreprises chinoises, dont les exportations ont diminué, bien que on constate qu'elles résistent, puisqu'elles maintiennent quand même leur part de marché à plus de 75% de leurs exportations vers les États-Unis. Tous ces chiffres concernent le premier semestre 2019, et on ne sait pas quel est l'impact supplémentaire de la hausse des tarifs qui s'est produite depuis donc fin juin 2019. Alors, sur les consommateurs, pour nous, il est difficile d'estimer quel est le pourcentage de hausse des prix ou de mesurer exactement l'impact sur leur pouvoir d'achat. Par contre, il y a des tiers pays qui bénéficient de cette guerre et qui se substituent aux exportations chinoises principalement. On parle par exemple de la province chinoise de Taïwan, du Mexique, de l'Union européenne, du Vietnam, de la Corée, du Canada et de l'Inde qui sont les premiers. Il y en a d'autres les plus importants qui se sont substitués avec des prix plus intéressants donc pour les importations vers les États-Unis.
Les données tirées du dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications confirment que plus de la moitié des femmes dans le monde n'utilisent pas Internet. Le document intitulé « Mesurer le développement numérique, faits et chiffres 2019 » souligne également la persistance de disparités entre les hommes et femmes dans le domaine de la téléphonie mobile, comme le confirme Monica Guenner, porte-parole de l'UIT.
L'accès à Internet n'est pas nécessairement synonyme d'utilisation d'Internet, et les données le montrent. Ainsi, 96% de la population mondiale a accès à un signal mobile, mais seulement 53,6% de la population mondiale utilise effectivement Internet, et 4,1 milliards de personnes y ont recours, ce qui nous laisse avec 3,6 milliards de personnes qui sont coupées de la révolution numérique. Et le deuxième message clé est que le monde monde est confronté à un fossé numérique grandissant entre les sexes. Ainsi, plus de la moitié de la population mondiale des femmes, soit 52%, n'utilise toujours pas Internet. Ainsi, les progrès en matière d'accès et d'utilisation d'Internet ont été beaucoup plus importants pour les hommes que pour les femmes au cours des deux dernières années.
Alors que les commissaires de police de mission de paix de l'ONU s'apprêtent à prendre la parole ce mercredi devant le Conseil, nous revenons sur le parcours de la lauréate du prix de la policière de l'ONU de l'année 2019, la Sénégalaise Seynabou Diouf. Cette commandante de police est actuellement déployée au sein de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au micro de Pascal Sim, Seynabou Diouf explique son travail dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels et comment son travail de femme policière est perçu par les autres. On écoute Seynabou Diouf.
Déployée à la MONUSCO en mars 2017, j'étais d'abord là, dans le Gender Task Force. Il y avait des résolutions en place, il y avait des bulletins du secrétaire général successifs en place, des mémorandums de la SRSJ, des instructions du police advisor et des directives du police commissioner. Des gens en place dans la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, c'est-à-dire des violences exercées par le personnel des Nations Unies sur les locaux qu'on est censé servir. Mais il n'y avait pas de structure qui devait chapeauter tout cela. Et le police commissioner a senti nécessaire de mettre une équipe en place pour voir, pour monitorer tout ce qui se fait sur le terrain dans ce sens. Parce qu'il faut rappeler que avant 2017, on était à 98 cas. Je ne parle pas d'allégations, je parle de cas d'abus et exploitation sexuelle à la MONUSCO. Mais par rapport à la police, nous avons pris les cornes du taureau et nous l'avons tiré. Comment ? En mettant sur place un email générique pour ceux qui voudraient dénoncer en toute confidentialité. Nous avons mis en place des comités de veille pour entrer en communication avec la population et savoir si nos agents UNPOL, c'est-à-dire FPU comme Individual Police Officers, les officiers de police individuels, se comportent professionnellement. On a élargi la directive sur la non-fraternisation qu'il fallait expliquer, descendre sur le terrain, faire les secteurs, faire les sous-secteurs, les antennes, pour expliquer que non-fraternisation ne veut pas dire se garder de travailler. Au contraire, ça appelle à plus de professionnalisme de la part de nos collègues. Ça appelle à plus de retenue, de ne pas se servir, mais de servir les Nations Unies qui nous payent pour aider les populations locales, les populations qui sont vraiment vulnérables et qui ont besoin de notre présence.
Comment êtes-vous perçue en tant que femme policière par vos collègues, notamment d'abord de l'ONU, vos collègues policiers par exemple ?
Une bonne perception quand même, je dois dire, parce que ce n'est pas des policiers qu'on a pris sur le tas, c'est des policiers qui ont subi un certain nombre de formations et qui ont eu à engranger un certain nombre d'informations. Donc, qui viennent dans les Nations Unies tout en sachant qu'il y a le respect du genre. Il y a aussi le respect de la diversité. Il y a le professionnalisme. Il y a beaucoup de requirements qui leur permettent de mieux se tenir et de respecter une femme. Donc, je n'ai jamais eu affaire à des collègues qui m'ont pris comme une femme ou comme autre chose qu'un collègue. On travaille de concert et on est en bonne entente dans une même équipe. Et on se dit souvent que c'est une équipe qui gagne dans la police de la MONUSCO.
Et de la part de vos collègues de la police nationale congolaise ?
On s'entend très bien. On s'entend très bien parce qu'on est partenaires. Et un partenariat, c'est l'écoute mutuelle. On les écoute et on les aide sur les points sur lesquels ils ont besoin d'être aidés. Quand on va en colocation, on leur explique. On les écoute, on les voit faire. Et on leur dit, ne penserez-vous pas qu'il serait mieux de faire comme ceci ou comme cela? On en discute et on arrive à un point. On les fait accepter les normes standards des Nations Unies, ce qui est accepté dans les autres pays. Il y a des choses à changer, bien sûr, mais beaucoup de choses ont été changées, et en mieux.
Vous êtes la première gardienne de la paix sénégalaise, vous êtes sortie majeure de votre promotion. Quel serait votre message pour une jeune femme qui pense qu'une carrière dans la police n'est pas faite pour elle?
Je lui dirais qu'elle se trompe lourdement. Non seulement vous avez un métier fixe, deux, vous pouvez changer l'avenir de beaucoup de femmes. Les femmes souffrent et elles n'ont pas à qui parler. Et quand une femme est détenteur de la force publique ou représente la force publique, elle peut écouter et elle peut faire la différence.
Voilà la fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.